Alors là, c'est encore un vaste problème. Parce que, si tu veux, c'est presque un jeu d'échecs qui a été mis sur pied par notre ami Staline, qui a poussé pour qu'on fasse des fronts populaires en Espagne et en France, et surtout en France, parce qu'en Espagne, il n'était pas maître du jeu au départ. Mais en France, alors donc, il a voulu mettre là-dedans un parti bourgeois, mais quand même pas. Parce que dans les radicaux, il y avait deux sortes de radicaux. Par exemple, aux élections, ils s'annonçaient radicales. Et d'autres s'annonçaient radical socialistes. Les deux têtes dirigeantes, c'était les deux Édouards. Édouard Daladier et Édouard Herriot. Herriot était maire de Lyon, très, très important. Alors, en tendance, Herriot était radical et Daladier était radical. Enfin, ils se bombardaient radical socialiste. Ça n'empêche qu'ils étaient contre les nationalisations. Et ils ont accepté d'y participer en ayant la garantie qu'on ne nationaliserait pas tout. Parce que si on nationalise tout, ça devient une société socialiste, quoi. Donc ils ne voulaient pas. Alors, il y a eu du tirage, mais alors ce qui est savoureux, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais ils ont essayé de torpiller quand même certaines des lois par le canal du Sénat, où le Sénat était très majoritaire, de droite, mais il y avait aussi beaucoup de radicaux. Mais ils n'ont pas réussi à cause des grèves que j'évoquais devant la montée du tsunami, sauf qui peut, oui, bon, vous voulez, d'accord, les 40 heures, d'accord, de mauvaise grâce, mais ils l'ont accepté. Mais alors, attends, la cerise sur le gâteau. Parce que le Front populaire, on parle toujours de 1936, mais il a quand même duré jusqu'en 1939. Il y a eu 1937, donc une première fois, les radicaux ont voté contre une autre loi, parce qu'il y a eu d'autres lois après d'application, etc. Puis il y a eu des réformes importantes, l'office du blé, par exemple, pour les paysans. Ça serait trop long, tu vois. Moi, j'ai voulu faire simplement 1936. Mais l'histoire du Front populaire, il y en a pour des heures. Ils ont réalisé beaucoup de choses qui nous servent encore aujourd'hui. Alors, à un moment donné, les radicaux de l'Assemblée nationale se sont abstenus. Alors, Blum, qui était un type, il avait des défauts comme tout le monde, mais il était intègre. Ah, si vous ne me soutenez plus, moi je fous le camp. Il est parti. Il a quitté le gouvernement. Oui, mais pour retrouver un type de cette envergure, c'était pas tellement facile à l'époque. Je sais plus, les dates m'échappent, là. Ils sont venus le chercher. Il y a eu un deuxième gouvernement, Blum. Alors là, après, il a été torpillé par les communistes. Sur ordre de Staline, toujours pareil. Et les communistes ont défilé dans Paris, drapeau en tête, Blum aux chiottes, Daladier au pouvoir. Fallait le faire. Alors voilà des gens qui ont refusé d'être membres du Front populaire, vous vous rappelez, ils ont refusé de participer. Et après, ils décident eux-mêmes de qui va diriger le Front populaire. Et ils ne prennent pas un socialiste, bien sûr, c'est l'ennemi numéro un, je vous l'ai dit pendant très longtemps. Donc ils prennent un bourgeois. Alors, Thorez a essayé de convaincre Herriot de devenir, on ne disait pas premier ministre, président du Conseil.
Ça, c'est à quelle date?
Oh, ça doit être en 1938.
Ouais, c'est ça.
Alors donc, Herriot refuse, Daladier accepte. Alors, c'est là où l'histoire a de ses retours extraordinaires. Un an après, fin 38, les dates, là, j'ai plus dans la tête. Alors, mon Daladier, qu'est-ce qu'il fait? Il dissout le Parti communiste, qu'il a mis au pouvoir. Non mais, il faut le faire. Il dissout le Parti communiste, parce que le Parti communiste, comme disait Guy Mollet, qui a dit beaucoup de conneries, mais il a quand même dit, les communistes, ils sont ni à droite ni à gauche, ils sont à l'Est. Et c'était quand même vrai. Ils étaient à l'Est. Et voilà, alors donc, Staline qui fait des virages à 360 degrés, c'est du trapèze volant sans filet. Hein. Et alors donc, hop, Daladier dissout le Parti, et interdit le journal L'Humanité. Donc c'est le mec qu'ils ont mis au pouvoir, bourgeois, qui les met hors circuit. Alors, je termine là-dessus, parce que c'est vraiment une époque extraordinaire. Quand, en 1940, quand les Allemands nous ont foutu la raclée vite fait, donc Pétain est appelé au pouvoir. Et c'est toujours la Chambre des députés du Front populaire, hein. Il n'y a pas eu d'élection. Entre 36 et 40, il n'y a pas d'élection. Il devait y en avoir en 40 des élections, mais manque de peau, terminé. Alors, le pétain.
Non, c'est avant, excuse-moi, c'est avant les accords de Munich ou après ce dont tu parles ?
Pardon.
Ce dont tu parles, c'est avant ou après les accords de Munich ?
La dissolution du Parti communiste.
Mais la dissolution du Parti communiste, elle est un petit peu avant, déjà, parce que déjà avant, ça mijotait. Mais en fait, quand Daladier s'est rendu en Allemagne pour signer ses accords, les communistes ont mené une vie de chien à fond, c'est dégueulasse, c'est ci, c'est là. C'est sans doute vrai, hein, je discute pas là-dessus. Mais en fait, c'était surtout que Staline, ça lui plaisait pas du tout qu'il y ait ces accords-là. Parce que c'était quand même des accords qui faisaient que l'Allemagne, en stratégie internationale, l'Allemagne et la France devenaient des ennemis futurs, potentiels de la Russie. Malgré que, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour lui, l'Allemagne nazie, c'était superbe. D'ailleurs, on a connu après les accords Staline-Hitler. Hein. Bon. Quand il a fallu voter les pleins pouvoirs à Pétain, Pétain est élu largement, il y a 80 parlementaires qui refusent. Alors les communistes ont toujours vanté « Ah, mais nous, on n'a jamais été les pleins pouvoirs ». Ils ne pouvaient pas, ils n'existaient plus. Ils n'avaient pas de députés. Cependant, il y a quelques exceptions. Il y a par exemple Clamanus, maire communiste de Bobigny. Eh bien lui, il est revenu siéger, il a voté les pleins pouvoirs. Le numéro un du parti, c'était Maurice Thorez. Au moment de la déclaration de guerre, le pape rouge de Moscou décide, comme fait le pape, là, quand il appelle tous les cardinaux pour les conciles, là, tout ça, et bien là, il a dit, hop, il a récupéré Thérèse, il a récupéré Togliatti en Italie, et puis d'autres, en fait, tous ceux qui voulaient garder. Thérèse, il part là-bas avec sa Jeannette sous le bras, et ils passent leurs 5 ans là-bas, leurs pieds dans leurs pantoufles. Si vous voulez, comme il n'avait plus l'humanité, il avait demandé à Léon Blum la possibilité de faire un article dans le Populaire, quand la guerre s'est déclarée. Et Blum, comme un connard, il accepte. Et l'autre fait un article. Mais dans cet article, il disait que les communistes, si la patrie, il emploie le mot de patrie, si la patrie est attaquée, les communistes seront les premiers aux frontières pour la défendre. C'est beau. Alors lui, il a oublié de s'arrêter. Il a continué. Bon, c'est tout. Mais c'est quand même assez savoureux. Alors évidemment, parmi les 80 qui ont voté contre, c'est quand même une majorité de socialistes. Pas tous, hein. Ah là là, pas tous. J'ai parlé de Thorez, c'était le numéro 1, mais le numéro 2 du parti à l'époque, c'était le grand Jacques, Jacques Doriot. Et ils allaient à la chambre ensemble, en chemise Lacoste avec la cravate rouge. Pas habillé, pas de veste. C'était de la provocation, si tu veux, par rapport aux bourgeois, etc. Très bien. Mais pour finir, l'un au chaud à côté d'un dictateur qui s'appelle Joseph Staline, le deuxième devient officier supérieur des Waffen-SS d'Hitler. Donc les deux têtes communistes avant la guerre finissent tous assis à côté d'un dictateur. Un rouge et un noir. Hein, ça donne à réfléchir. Attention. Dès l'instant que vous avez un parti autoritaire, méfiez-vous. Il n'y a qu'un seul mot qui compte, la liberté. Je suis prêt à crever encore, même à mon âge, il ne m'en reste pas beaucoup, mais je suis prêt pour la défendre. La liberté, pas autre chose, rien.